Bonjour et bienvenue sur La Vie Santé. C'est Michel Jacques qui vous accueille. Nous avons cette semaine un invité dans la personne de M. Michel Turbide. Bonjour.
Bonjour.
M. Turbide va nous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui est le sien, puisqu'il s'agit d'un des grands spécialistes au Québec de l'aromathérapie. Et j'aimerais bien vous entendre pour quelle est la définition que vous donnez à l'aromathérapie?
L'aromathérapie, en premier lieu, c'est l'utilisation d'huiles essentielles à des fins thérapeutiques. Donc, on utilise, par exemple, de l'eucalyptus radiata, et puis on va l'utiliser, par exemple, sur la peau pour soigner une grippe, un rhume.
Mm-hmm. Quelle est l'origine de l'aromathérapie?
Ah, l'origine de l'aromathérapie, elle est millénaire. On sait que les Égyptiens l'utilisaient. On sait que les Indiens de l'Inde, il y a très, très longtemps, utilisaient les huiles essentielles pour soigner l'âme des gens et soigner l'aspect physique aussi des gens.
D'abord, donc, c'est pas nouveau de cette année, cela. Vous venez de publier un livre il y a quelques années, il y a 2-3 ans, sur l'aromathérapie. Je pense que c'est le seul livre québécois qui existe sur le sujet. Est-ce que je me trompe là-dessus?
Ah, oh, il y en a plusieurs livres.
Il y a plusieurs.
Oui, mais disons, c'est un livre qui est particulier. Je parle beaucoup de molécules biochimiques. Et ça, c'est une particularité. Donc, pour les huiles essentielles, c'est composé de 100% molécules biochimiques. Et qu'est-ce qui donne la raison d'être de l'action thérapeutique des huiles essentielles? C'est les composantes biochimiques des huiles.
OK.
Et dans ce livre-là, je mets beaucoup d'emphase sur ça.
Quelqu'un va... Bon, on va aller voir un massothérapeute, on va aller voir un physiothérapeute, on va aller voir... Mais est-ce que quelqu'un va consulter en aromathérapie?
Pas vraiment. Oui et non, mais disons, c'est plus, par exemple, un naturopathe qui va, dans son coffre d'outils, il va y avoir l'homéopathie, il va y avoir l'aromathérapie ou la vitaminothérapie. Il va utiliser, selon le besoin, cet outil-là, qui est un outil extraordinaire pour soigner. Ou le massothérapeute qui va, dans sa pratique, va utiliser des huiles essentielles pour soigner les gens pour les douleurs musculaires, par exemple.
Mm-hmm. Est-ce que monsieur et madame tout le monde là, qui vous entendent aujourd'hui vont, ces gens-là vont décider de dire, ben voici, je porte un peu plus attention à l'environnement, aux arômes. L'aromathérapie, c'est quoi dans l'environnement là, qu'on vit? Il y a de la pollution, il y a des autos qui passent, il y a des odeurs de vous comprenez? On vit avec toutes sortes d'odeurs de toutes catégories. Et vous arrivez avec, les huiles essentielles, mais les arômes, les odeurs, tout ça. C'est un peu ça, là.
Oui. En fait, on va prendre par exemple, au Québec, on a des conifères. On a du sapin, la pruche... le pin sylvestre, etc., qui va pousser dans les forêts du Québec. Puis c'est dans ces forêts-là qu'on va couper les branches. On ne coupe pas les arbres, on coupe les branches. Puis après ça, on va distiller ces huiles essentielles-là. Et on va, à partir de ça, on va les utiliser pour soigner ou diffuser dans l'air aussi. Hein. On prend une huile essentielle, on va la mettre dans un diffuseur d'huile essentielle, mm-hmm. puis on va aromatiser, si on veut, à une pièce dans notre maison. Là. C'est-à-dire, on va... Mais les huiles essentielles qu'on va utiliser pour soigner, ça va être des huiles essentielles qui sont biologiques ou sauvages. Donc, c'est pas dans les villes qu'on va chercher les plantes aromatiques. Okay. Et un point important, ce sont des plantes aromatiques qu'on prend et non des plantes tout court. C'est-à-dire que on choisit des plantes qui ont des odeurs. La rose, le géranium, le sapin. Mais on ne prend pas de pissenlit, on ne prend pas de plantes qui n'ont pas d'odeur, comme mm-hmm. le persil. Enfin, ça prend absolument des plantes qui ont des odeurs.
OK. Si je me rappelle bien, du temps de l'épidémie de la tuberculose, les gens étaient envoyés dans des sanatoriums dans le nord où il y avait des sapins. Et c'est ce qu'on me racontait. Il y avait beaucoup de gens qui étaient... Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de médicaments. Et la seule médication qu'on avait, c'était d'envoyer ces gens-là dans des endroits à la campagne où il y avait des sapins. C'est un peu le souvenir qui m'en vient. Et ça me fait penser un petit peu à ce que vous proposez.
Oui, et puis le sapin ou les conifères, en général, vont donner... ils ont un effet bénéfique sur les poumons.
Ah, bon, donc, vous voyez, là, il y avait un lien réel. Là. Ouais. Donc, les gens avaient décelé que l'environnement de sapin... Donc, c'était de l'aromathérapie qui se faisait, sans nommer ça comme ça. Là.
Ouais. Mais quand on cuisine... On fait de l'aromathérapie aussi. C'est-à-dire que si je mets de l'origan, du thym, de l'ail, de l'oignon, je fais de l'aromathérapie. C'est-à-dire que je vais aromatiser les mets. Et c'est avec ces plantes-là qu'on fait les huiles essentielles. Hein. On va choisir des plantes qui ont des arômes, puis on va aller chercher l'essence de ces plantes-là, puis on va concentrer ça, puis on va mettre ça dans une bouteille dans laquelle il va y avoir 100% huile essentielle provenant de ces plantes-là. Donc, quand on cuisine, si je cuisine avec de l'ail, du clou et la cannelle, bien, je vais donner une saveur, mais aussi ces plantes-là ont des propriétés thérapeutiques.
Comme quoi?
Par exemple, lorsqu'on mettait du clou, par exemple, dans nos tourtières, le tourtière, c'est fait avec du porc, entre autres, et de la viande. Bon, mais ces viandes-là avaient une possibilité d'être infectées, hein, si c'était mal cuit. Puis le clou de girofle a une propriété antibactérienne, antifongique, antiparasitaire, très performant.
Ah bon?
Donc, je soupçonne que le choix de ces plantes-là dans la cuisine avait pour but premier de protéger contre les infections et aider à la digestion.
OK. Bon, ben on apprend des choses aujourd'hui. Hein. D'abord, vous, là, comment vous êtes venu à l'aromathérapie? Est-ce que ça a toujours été présent ou comment vous êtes éveillé à la dimension des huiles essentielles?
Il y a 20 ans, j'ai suivi une formation avec M. Pierre Francombe, qui est un chercheur, un aromathérapeute, un Français, qui est venu ici au Québec. Et mon premier cours de médecine douce a été un cours d'aromathérapie. Au début, je ne savais pas où je trouvais ça. Je ne savais pas dans quoi, où je m'embarquais. Là. Et j'ai écouté son cours une fin de semaine et j'ai par la suite adoré ça. Pourquoi? Parce que ce que je voyais dans l'aromathérapie présentée par Pierre Francombe, c'est une approche thérapeutique très rationnelle, il y a comme une approche scientifique en le sens qu'il y a une logique. Si une huile essentielle a des phénols, c'est une composante biochimique, forcément, c'est un anti-infectieux majeur. Et aussi, les huiles ont des odeurs fortes, ont des odeurs dominantes qui fait qu'elles peuvent être très agréables. Elles peuvent aussi toucher les gens, l'émotion des gens. Elle a une dimension plus élargie que juste l'aspect physique. C'est-à-dire qu'elle peut toucher, par exemple, les chakras, elle peut toucher l'émotion, elle peut avoir une action très variée, c'est-à-dire qu'elle peut être anti-infectieux majeur, elle peut être anti-douleur, anti-inflammatoire, elle peut être cicatrisante, elle peut être lipolytique, c'est-à-dire qu'on peut traiter la cellulite, on peut traiter les varices.
Et c'est toute une richesse là, que vous présentez aujourd'hui, là. Vous donnez de la formation. Je vois que vous parlez des chakras et c'est un des sujets, une des sessions, une des séries de sessions que vous offrez en formation, c'est ça?
Oui, je vais donner une formation au mois d'avril à Saint-Hilaire sur les huiles essentielles et les chakras. Et les chakras, bien, c'est une approche ayurvédique indienne et c'est une approche aussi millénaire où on parle d'huiles essentielles qui vont animer soit le premier, le deuxième ou le septième chakra.
Les chakras, c'est des centres d'énergie qui existent dans le corps, c'est ça.
Oui, je ne veux pas trop élaborer, mais c'est beaucoup à dire, mais enfin...
C'est des sujets, bon, on a tous entendu parler, puis il y a des gens qui ont peur un peu de tout ça, là, mais je pense que quand on dit qu'il y a des centres d'énergie, je pense que les gens comprennent qu'il y a des centres d'énergie en nous. Hein. Quand on parle de l'art, parlez aussi des arômes, parlez de la cuisine. Quand vous présentez votre cours... qu'est-ce que vous leur donnez là, qui donne le goût aux gens d'aller plus loin que simplement d'y aller de façon accidentelle? Parce qu'on peut mettre de l'ail parce que c'est pour le goût, mais vous allez plus que ça. Là. Vous allez vraiment dans la dimension thérapeutique de l'utilisation des herbes, des fines herbes.
Oui, mais moi, j'ai été cuisinier au commensal 10 ans.
Et détail important, là.
C'est ça, au tout début, quand le commensal a ouvert ses portes, j'étais là. Et j'étais responsable de créer des nouveaux mets.
Okay.
Puis j'ai comme une... Bon, j'aime beaucoup cuisiner. Et depuis 3-4 ans, j'ai commencé à écrire un livre d'aromathérapie. Là, je suis rendu à la 50 pages. Mais disons, mon projet avance. Et donc, les huiles essentielles, oui, on peut les utiliser dans la cuisine, mais il faut être prudent, c'est certain. Il ne faut pas choisir n'importe quelle huile essentielle. Il faut... par exemple, il y a des huiles qui sont peuvent être dangereuses. Hein. Il faut,
faut être prudent.
Mais en fait, comme par exemple la cannelle, tantôt je parlais de la cannelle.
Oui.
En huile essentielle, si je la mets pure sur la peau, elle peut brûler la peau au deuxième degré.
Oh là là.
Donc, il y a comme une... Ce qu'on va faire,
c'est
qu'on va mettre... Ouais, faut mettre une goutte dans une cuillère à thé d'huile végétale, puis là, qu'on va incorporer dans les mets, par exemple. Là, à ce moment-là, c'est sécuritaire. Mais si je la mets pure, bien, ça va agresser les muqueuses buccales et puis...
Ça va brûler.
Oui, c'est ça. Faut pas... Ils ont une façon d'utiliser, mais une façon sécuritaire et où qu'on est certain d'avoir un certain succès, c'est en utilisant les agrumes. Par exemple, le citron, l'huile essentielle de citron, d'orange, de mandarine, ce sont des huiles qui sentent très bon, mais qui goûtent aussi comme elles sentent. Donc, si on est habitué d'utiliser le jus de citron sur le poisson, bien, on pourrait utiliser de l'huile essentielle de citron avec de l'huile végétale. Par exemple, 3 gouttes d'huile essentielle de citron, zeste, dans une cuillère à thé d'huile qu'on pourrait mettre sur un poisson qui vient de sortir du four, par exemple.
OK.
Ou on fait un pesto.
Ouais.
Puis là, on met de l'huile essentielle de basilic grand vert. On en met juste une petite goutte. Puis là, l'arôme de l'huile essentielle de basilic va aromatiser l'espace ou l'assiette. Et là, ça va être un tout assez intéressant puisque ça va sentir bon, ça va goûter bon.
Et puis, il y a la dimension thérapeutique.
Ou en plus, oui, la basilic, ça aide à la digestion. C'est une huile essentielle aussi qui a des propriétés équilibrantes. C'est une huile essentielle qui ne calme pas, mais elle rend zen. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme un état de calme. Puis, elle va aussi favoriser une meilleure digestion. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. C'est une huile en usage cutané. Elle va être relaxante, mais en buccal, c'est plus digestif. Là.
On va prendre un moment en musique et nous revenons avec notre invité, M. Michel Turbide, auteur de l'aromathérapie aux éditions Santé Arôme, également formateur dans ce domaine.
Oh,
invité de cette semaine, eh bien, c'est un sujet qui est riche en odeurs et en arômes, puisque nous parlons de l'aromathérapie. Je pense que pour bien des gens, c'est du chinois, mais je pense que ça fait partie de notre environnement, bien au-delà de ce qu'on peut penser. Les gens... est-ce que les gens sont plus sensibles dans notre siècle aux arômes et aux huiles essentielles et à tout ce qui est odeur dans, la, dans l'environnement?
Je crois depuis, que oui.
Depuis.
Oui, mais je crois que c'est... Ben, en fait, on est sensible à l'odeur puisque les gens utilisent beaucoup de parfums. Quand ils lavent la vaisselle, on va utiliser un liquide à vaisselle à l'odeur de pomme ou de... on va laver notre linge avec une odeur, mais c'est des molécules de synthèse.
OK.
Et on pourrait utiliser les huiles essentielles. Par exemple, moi, quand je nettoie, par exemple, chez moi, ben, je vais utiliser un nettoyeur biodégradable dans lequel je vais mettre de l'huile essentielle de menthe et de clou de girofle, par exemple, et d'eucalyptus citronné, enfin. Et ce que ça fait, c'est que ça donne une odeur, une vraie odeur, puisque les huiles essentielles, ce sont des vraies odeurs, c'est pas des molécules de synthèse. Et en plus...
C'est quoi la différence, là? Parce que la longueur de l'odeur, c'est quoi, là? C'est entre les deux, là. C'est quoi que là?
Mais en fait, un parfum, c'est fait à partir de molécules mortes, hein, qui n'y a pas de vie dans le... et c'est des produits chimiques et qui sont toxiques à la longue. Je ne sais pas si vous allez dans le site Internet... Greenpeace, entre autres, là, si vous allez faire une recherche sur les parfums, vous allez voir qu'il y a des recherches qui ont démontré que les molécules de parfum, elles sont toxiques pour l'organisme. Elles peuvent entraîner certaines infections. Mm-hmm. Si on se met du parfum, mais si on lave le linge, c'est souvent parfumé, on prend un savon qui est parfumé aussi, bien, le cumul de tout ça finit par avoir un effet négatif sur l'organisme. Tandis que les huiles essentielles n'ont pas cet élément-là. C'est-à-dire qu'une huile essentielle, ce sont des molécules végétales et naturelles.
Mm-hmm.
Et puis, donc, elles vont donner un effet énergétique. Par exemple, si on prend de l'huile essentielle de clou de girofle, c'est très énergisant. Ça traverse le premier chakra, ça a un effet antibactérien, antifongique. Donc, c'est pas juste une odeur, c'est une dimension, c'est plusieurs dimensions qui se révèlent lorsqu'on met des huiles essentielles dans un produit de nettoyage. Par exemple, chez moi, l'année passée, j'avais des fourmis, plein de fourmis chez moi.
Okay.
J'ai pris un nettoyeur, j'ai mis de la menthe poivrée dedans et j'ai vaporisé tout le bas des murs, sur le comptoir. Les fourmis détestent la menthe poivrée. Ils en ont, ça les tue pas, mais ils se sauvent et ne reviennent plus jamais. Donc, ça sent bon, la menthe poivrée. Donc, mm-hmm. C'est comme on fait, une pierre deux coups, là.
Aha. Il y a plusieurs aspects. D'abord, dans votre livre, qui est quand même une bible sur l'aromathérapie, qui a 250 pages, vous parlez, entre autres, dans votre introduction, c'est calmant, c'est les contractions musculaires. En quoi, là? Parce que l'aromathérapie peut venir en aide aux gens qui ont des contractures.
Vous connaissez la lavande?
Oui.
La lavande vraie, c'est une huile essentielle qui, c'est une huile qui est composée de molécules biochimiques, dont une molécule très importante, c'est les esters. Cette molécule-là, lorsqu'on l'applique sur la peau va boire cette molécule-là, ces huiles essentielles-là, puis elle va atteindre le système nerveux mm-hmm. et musculaire, et ces molécules-là vont interagir, par exemple, sur le système nerveux, puis vont favoriser un effet calmant. Et sur les muscles, va favoriser une détente musculaire. Mais il y a beaucoup d'huiles essentielles qui ont des esters, comme la camomille noble, des esters, la mandarine, les feuilles de mandarine, feuilles d'orange. Ils ont des esters aussi et ont des propriétés calmantes, relaxantes.
Donc, quelqu'un qui a certains problèmes, supposons pulmonaires, il va dire, j'aimerais bien pouvoir améliorer mes... Ou quelqu'un qui est asthmatique... Est-ce que des choses comme ça les arômes et les huiles essentielles peuvent venir en aide ou sans être une guérison complète, ils peuvent au moins aider à l'environnement?
Oui, il y a des huiles essentielles qui peuvent être aidantes. Là, je pense la camomille bleue avec un peu de menthe poivrée. La camomille bleue, c'est une huile essentielle qui est anti-allergique, qui est anti-inflammatoire. Quand on fait des allergies, il y a une forme d'inflammation, il y a un resserrement. Et la camomille bleue, bien, c'est, elle va réduire les réactions que le corps a par rapport à un allergène. C'est un anti-allergie. Anti-allergique à la camomille bleue. Puis la menthe, elle va jouer un rôle décongestionnant agréable, mais ça ne guérit pas. Ça fait atténuer les fous.
Oui, ouais. Parce que je connais des gens qui ont des problèmes d'asthme et à l'instant qu'elles sont exposées à des parfums, la réaction est immédiate. Là. Il y a une crise qui va être provoquée.
Mais c'est, ben,
parfums, c'est pour dire ouais. que l'aromathérapie, les gens vont dire c'est de la sorcellerie ou c'est des choses bien bizarres. Mais en réalité, les odeurs, ça vraiment ils ont toujours un impact sur notre.
Est-ce que vous aimeriez juste essayer, je vais vous mettre une goutte sur votre main, puis vous allez la mettre dans votre bouche. Puis vous allez voir l'effet. C'est assez intense. Puis ça goûte la menthe, parce que c'est la menthe poivrée. Vous allez voir, dans la bouche, c'est frais. Puis après ça, il va avoir la vapeur d'huile essentielle va aller dans le nez, puis le nez va se décongestionner.
Ah oui.
Puis ça donne une haleine fraîche, et puis c'est comme une entrée d'oxygène aussi, une sensation agréable.
Ben, je pense que c'est c'est à utiliser. Hein.
Puis ça aide à la digestion aussi, la menthe. Mais il faut pas abuser la menthe, il faut y aller en petite quantité. Puis si on fait de l'hypertension, c'est pas conseillé.
Bon. Je vois devant vous, vous avez toute une panoplie là, de petites bouteilles bleues. Pourquoi d'abord bleues par rapport à une bouteille transparente?
Pour protéger l'huile essentielle.
OK.
Donc ici, parfois les bouteilles sont brunes ou bleues. Ces couleurs-là permettent de protéger contre les rayons du soleil. Les huiles essentielles, c'est sensible à la lumière du soleil et c'est sensible aussi à la chaleur. Donc, ce qu'on fait, c'est... Les huiles essentielles, c'est un peu comme de l'alcool. Hein. Ça ressemble beaucoup à l'alcool. C'est très vaporeux, c'est très léger. Et si je laisse la bouteille ouverte, il va y avoir une réduction de l'huile essentielle.
Parce ça va se répandre, mais vous allez perdre de la qualité.
Ce que je vais perdre, c'est juste la quantité.
Ah, la quantité.
La qualité est toujours présente. C'est comme, l'essentiel, c'est un peu comme... C'est une matière qui est presque les non-matières. Je ne sais pas si vous comprenez. Au fur et à mesure qu'il y a une évaporation, que l'odeur s'évapore, le liquide se réduit. Mais la qualité demeure.
OK, je comprends. Et je pense qu'on pourrait peut-être prendre un moment pour... permettent à la station de s'identifier. Et nous revenons avec notre invité, M. Michel Turbide, auteur de l'aromathérapie aux éditions Santé Arômes.